Suivez Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.
Priorité Santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Un deux-roues accidenté avec son conducteur au sol, un piéton que l'on croise et qui chancelle avant de s'effondrer, dans la cuisine un enfant qui se brûle en renversant une casserole, un proche que l'on sait atteint d'une maladie chronique et que l'on souhaite pouvoir se soutenir et soulager en cas de crise. Dans de nombreuses circonstances, parfois même imprévisibles, nous pouvons être les témoins de situations qui relèvent de l'urgence et savoir réagir dans ces moments très particuliers peut être essentiel. Pour la victime ou le patient, bien sûr, pour sa santé, sa sécurité et pour soi aussi d'une certaine manière, car assister impuissant à un accident sans pouvoir rien faire, eh bien cela peut être également très difficile à vivre. Bien sûr, il ne s'agit pas de se substituer à l'équipe médicale, mais plutôt d'enchaîner certains gestes pertinents, ce qui permet de protéger, d'alerter, d'éviter un surrisque. Et dans ce type de situation, il faut éviter plusieurs écueils. D'abord la panique, on l'a dit, réussir à faire face à l'urgence d'un point de vue émotionnel, ne pas s'exposer soi-même ou engager des actes qui nous menaceraient, et ensuite organiser son action selon un plan qui permette de ne pas aggraver la situation. On le sait, dans ces cas-là, chaque minute compte et les conseils d'un spécialiste des urgences peuvent aider à faire la part des choses. Intervenir efficacement en situation d'urgence, prévenir, protéger, identifier aussi et surtout appeler les secours, décrire la situation, recueillir les informations essentielles, comment réagir jusqu'à l'arrivée de l'équipe médicale, quels sont les gestes à ne pas faire. Avec nous dans les studios de RFI, Dr Massamba Sassoum Diop, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar, médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne en région parisienne, et vous présidez également la Société sénégalaise d'anesthésie, réanimation et de médecine d'urgence. Des gestes qui s'apprennent à l'école, au travail. On va donner la parole à Robin Desvrieux, pisteur secouriste, directeur du service des pistes de Saint-François-Longchamp, Haute-Savoie. Il est donc formateur en secourisme. Et en fin d'émission, nous retrouverons le docteur Jean-Marc Sen, médecin du sport.
Priorité santé sur RFI.
Alors, docteur Massamba Sassoum Diop, les équipes du SAMU, les urgentistes, des équipes comme celle de SOS Médecins sont généralement les premiers soignants à prendre en charge les patients accidentés ou après une crise inattendue. Dans certains pays, ce sont les pompiers, la protection civile, ça dépend bien sûr. Mais il y a un moment, une petite période entre l'accident, l'alerte et votre arrivée. Dans ce laps de temps, certains gestes peuvent vraiment être essentiels. On a bien compris que dans cette émission, on ne va pas donner des conseils pour que les citoyens se substituent aux médecins et aux secouristes professionnels, non, plutôt des pistes pour gérer cette toute première urgence. Alors, quelles sont en particulier les situations pour lesquelles vous estimez que certains gestes peuvent faire toute la différence ?
Oui, vous avez tout à fait raison. C'est essentiel. C'est-à-dire que ce qu'il faut comprendre, c'est que quoi qu'il arrive, les secours arriveront au mieux entre 7, 8 à 10 minutes, je dis bien au mieux. Et on comprend que dans certaines pathologies, imaginez par exemple une carotide coupée ou une fémorale coupée, donc en fait une artère majeure coupée, vous avez entre 3 et 5 minutes avant le décès. Et jamais les secours seront là. Vous prenez quelqu'un qui s'est brûlé, si on ne fait pas les premiers gestes, on aggravera la brûlure. Vous avez quelqu'un qui est en arrêt cardiaque, si jamais le secouriste, si jamais le témoin ne fait pas les premiers gestes, en fait, nous, on va entretenir ce qui sera fait par le secouriste. Mais si le secouriste ne fait pas les gestes, en fait, la personne sera ou aura des lésions irréversibles ou tout simplement décédera avant notre arrivée. Donc, on voit là à quel point, et dès l'enfance, dès les tout petits, c'est ce que je dis souvent quand je leur fais des formations, c'est que vous, quand vous allez sortir de secours, vous allez pouvoir déjà sauver des vies et que sans vous, nous, je ne dis pas que nous servons à rien, mais nous avons beaucoup de pertes de chance pour le patient.
Et c'est vrai qu'on entend des fois dans l'actualité ces tout petits enfants qui ont téléphoné aux pompiers, qui ont téléphoné au secours et qui ont sauvé une maman, un frère, un sœur. C'est exceptionnel, mais c'est faisable.
C'est même pas si exceptionnel que ça. C'est de plus en fait, dès que on a une population qui est informée en nombre suffisant, on s'aperçoit que ça arrive ça de plus en plus fréquemment.
Alors on a compris, il y a des gestes qui sauvent, mais le premier conseil, est-ce qu'il n'est pas docteur d'ordre émotionnel et psychique? Déjà, on réunit les ressources pour pouvoir les appliquer, parce que quand on est en panique, on peut rien faire.
Alors, c'est très intéressant parce que justement, ce que vous dites, c'est que dans le dernier cours que j'ai fait, j'expliquais aux enfants que je leur donnais des exemples assez choquants. Je leur disais, voilà, imaginez un bras qui est coupé ou arraché. Parce qu'en fait, c'était déjà pour un peu les préparer. En disant, si je vous parle d'une toute petite coupure et que vous vous retrouvez devant, et là, pour sauver la personne, ce n'est pas le problème. Et que par contre, vous vous retrouvez devant un cas extrêmement grave. Si je ne vous montre, vous n'avez pas un peu dans l'imaginaire la gravité des cas, quand vous serez sur place, dans un cas comme ça, vous allez être complètement, vos moyens...
Tétanisés.
Totalement tétanisés. Et c'est pour ça que souvent, j'essaye un petit peu de montrer quelle peut être la situation. Et là, vous avez tout à fait raison, il est extrêmement important que les gens, dans un premier temps, et même nous, sur certains patients, ça nous arrive, quand on a des traumatismes majeurs, d'être impressionnés, d'arriver, on fait « waouh ». D'accord. Et après, on y va.
On prend sa place.
Voilà. Et donc ça, bon, nous, ça va durer quelques secondes.
J'espère.
Mais chez la personne qui a juste fait du secourisme, à ce moment-là, ça peut prendre un peu plus de temps. Mais s'il a bien été formé, il se recale. Et à ce moment-là, il va s'occuper, il va faire les soins.
Est-ce qu'il est indispensable d'avoir suivi des premiers secours, un cours, une formation, pour savoir comment réagir, ou il y a quand même, on va dire, des incontournables?
Quand on fait des formations, on les fait, par exemple, on met les gens en situation. Puis on voit qu'est-ce qu'ils nous proposent et ensuite, on leur dit ce qu'il faut faire. Mmh. Donc ça, c'est un peu l'idéal. On s'aperçoit quand même qu'il y a beaucoup d'erreurs et que vraiment fréquemment, les gens ont tendance à... Il y a vraiment des erreurs dans les soins, par exemple, typiquement sur les brûlés, entre la notion est-ce qu'il faut de l'eau, est-ce qu'il ne faut pas d'eau, la notion du malaise, sur le malaise, qu'est-ce qu'il faut faire. Donc on a quand même... les gens ne sont pas si bien informés que ça. Donc, oui, il faut vraiment faire cette formation-là, parce que spontanément, on ne peut pas dire que les gens réagissent bien.
Alors, en même temps, il faut savoir évaluer, apprécier l'état de la victime, pouvoir décrire, par exemple, au téléphone, ce qui se passe à un soignant. Comment est-ce qu'on trouve les mots dans ces cas-là? Est-ce que ça aussi, ça s'apprend?
Oui, on apprend à donner un message simple, clair et net. Typiquement, si la personne est en arrêt cardiaque, on va leur demander de dire « il ne respire pas et il est inconscient ». Voilà, nous, ça nous suffit. On sait que la personne, elle est consciente de ce qu'il faut faire. Elle a compris exactement qu'elle a fait du secourisme et qu'elle a de ces deux éléments majeurs, inconscient, ne respire pas.
Allez à l'essentiel, ça va être le cas au cours de toute cette émission. On va tout de suite donner la parole à un formateur en premier secours.
Priorité santé sur RFI.
Apprendre ces gestes qui sauvent, selon la formule consacrée, en ligne avec nous. Robin Desvrieux, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes formateur en secourisme, vous exercez en montagne, en Haute-Savoie, puisque vous êtes pisteur secouriste, directeur du service des pistes de Saint-François-Longchamp. Première question très simple, à qui s'adressent vos formations?
Eh bien, bonjour à tous. Alors, première question, les formations, elles s'adressent à plusieurs types de personnes, à la fois le grand public, donc notamment dans le milieu scolaire. On essaie de former de plus en plus de jeunes au premier secours en quatrième, troisième. À la fois également de la formation en entreprise via les sauveteurs secouristes du travail, donc qui est une formation extrêmement répandue, voire obligatoire dans certains secteurs. Et puis également des formations plus professionnelles qui vont durer un peu plus de temps et qui sont à destination de futurs secouristes professionnels, et notamment les pisteurs secouristes dans le milieu dans lequel je travaille.
Ça veut dire que les personnes sont là de leur propre fait, ou il y a derrière une organisation, l'école, une institution, une entreprise qui les a incités à le faire?
Oui, il y a très régulièrement, il y a un organisme derrière. Alors, pour ce qui est des formations dans le cadre de professionnels, effectivement, c'est l'employeur qui vous demandez à votre employeur pour pouvoir faire ces gestes, ou alors c'est votre employeur qui vous propose ce genre de formation, tout à fait.
Est-ce qu'il y a différents niveaux de formation en fonction de la complexité des situations, on va dire des grades, ou il s'agit d'une formation de base, formation générale ?
Oui, oui, bien sûr. Alors, il y a une formation de base qui sont donc sauveteurs secouristes du travail ou ce qu'on appelle le PSC1, premier secours civique niveau 1, qui sont sur une ou deux journées. Donc, on est vraiment sur de la formation de base. Tout à l'heure, je vous entendais parler de l'alerte, etc. Donc, c'est des choses sur lesquelles on va un petit peu appuyer parce que c'est vraiment une chaîne. Et donc, le premier maillon de la chaîne, c'est vraiment ce premier témoin qui va faire à la fois des gestes d'urgence absolus et à la fois une alerte qui permettra de donner correctement la suite du secours. Et puis après, une formation qui est un peu plus poussée, qui va durer une dizaine de jours, qu'on appelle premier secours en équipe, niveau 1, niveau 2. Et là, on va vraiment plus presque vers le paramédical et avec notamment tout ce qui est aussi évacuation des victimes,
Font les pompiers. Là, c'est beaucoup plus compliqué, ce ne sera pas vraiment le sujet de notre émission. Est-ce que vous constatez en tout cas chez ces stagiaires de premier niveau qu'il y a un certain nombre d'idées reçues en matière de gestes d'urgence et même dans la population générale quand ils arrivent?
Oui, oui, mais bien sûr, et c'est tout l'objet de la formation. En tout cas, on est beaucoup de formateurs à être dans cette optique-là, c'est-à-dire une des premières questions, c'est à votre avis, qu'est-ce qui peut vous arriver? Rien, et heureusement rien du tout en tant que secouriste, c'est-à-dire ce qu'on va vous demander, c'est avant tout de pouvoir intervenir. Intervenir, ça ne veut pas dire des fois sauver, malheureusement, hein, dans des situations très graves, il peut y avoir des décès, évidemment, mais avant ça, ce qu'on vous demande, d'intervenir, de voir un petit peu ce qui peut se passer, de faire peut-être un ou deux gens d'urgence absolue et passer une alerte. Et ça sera déjà l'essentiel. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'augmenter les pourcentages de taux de survie sur des secours graves.
Est-ce que le secouriste doit d'être polyvalent? Vous, par exemple, vous exercez dans un contexte de montagne. Est-ce qu'il y a justement, en fonction des terrains, des savoirs particuliers?
Oui, il y a des savoirs particuliers. Alors, en fonction un petit peu de son milieu professionnel, ces formations aux gestes de secours, elles sont forcément adaptées par rapport à ce que vous faites dans votre activité professionnelle. Quelqu'un qui bosse dans l'industrie, par exemple, il est probablement plus sujet à des accidents type chimique ou électrique. Et donc, il y a certains petits gestes à savoir, notamment au niveau de la protection. Et puis, quelqu'un sur les formations, nous, en montagne, par exemple, on travaille pour le personnel qui travaille en station de ski, on met en avant beaucoup la partie protection et notamment ce qui est lié à l'environnement, le froid, pour maintenir une victime le plus longtemps possible, je dirais, en vie par rapport au froid.
Éviter l'hypothermie. Alors, on entend bien acquérir un certain nombre de savoirs, mais peut-être aussi, c'est très important, définir ses limites quand on prête secours. Vous l'avez dit tout à l'heure, ne pas se substituer au médecin, accepter la limite de ses compétences. Est-ce que c'est aussi quelque chose que vous enseignez avec les stagiaires, ceux qui voudraient justement sauver des vies? On leur dit, on va commencer par sécuriser au maximum.
C'est très important, oui, tout à fait. Et la fameuse phrase qu'on entend souvent, c'est protéger, examiner, alerter, secourir. Et c'est vraiment ces quatre phases qui sont étroitement liées. Protéger, d'abord, je peux intervenir dans un milieu plus ou moins compliqué, mais sans me mettre en danger, en tout cas, vraiment en mettant en danger le minimum. Et ça, c'est important de le retenir parce que des fois, à vouloir sauver une vie, on va se mettre en danger et puis finalement, on va se retrouver avec deux victimes. Donc ça, c'est pas du tout... On n'est pas des héros, quoi. On fait d'abord des gestes de secours quand on peut les faire. Donc ça, c'est la première chose. Et puis après, dans le cadre du travail, quand on est sauveteur secouriste du travail, on a un équipement qui peut nous être fourni par notre employeur, une trousse de secours, un défibrillateur. Voilà. Et donc, la formation, elle est essentiellement liée à ce matériel-là. On ne va pas vous demander d'inventer des choses que vous n'avez pas vues, forcément. Et c'est pour ça que cette formation, elle s'ouvre au plus grand public. Il faut que ça soit très accessible, très facile, tout en retenant qu'on est limité dans le temps. C'est-à-dire, c'est l'arrivée sur le secours. Et puis ensuite, jusqu'à l'arrivée des pompiers, et puis par les moyens qu'on a avec nous. Et c'est ça, l'intérêt de cette formation, c'est de faire avec, on va dire, pas grand-chose.
Avec les moyens du bord. Merci beaucoup, Robin Desvrieux. Très bonne journée à vous. On vous retrouve en studio, docteur Massamba Sassoum Diop. C'est vrai qu'il va y avoir beaucoup de questions concrètes au cours de cette émission. Je vous en pose une directement. Comment savoir, sur un lieu d'accident, si on peut ou pas, c'est très important, bouger la personne, bouger la victime, parce que plusieurs situations peuvent se présenter?
Alors justement, comme l'a dit le collègue tout à l'heure, il a dit une chose très importante. Protéger, se protéger, avant d'examiner, alerter, secourir. Et le protéger, se protéger, c'est essentiel, puisque si imaginez que c'est au milieu de l'autoroute, Si on se retrouve avec une deuxième ou troisième victime, ça sera catastrophique. Donc en fait, le premier temps, c'est celui-là. Ensuite, une fois qu'on a sécurisé les lieux, là, effectivement, on va voir qu'est-ce qu'on doit faire. Et par rapport à ça, il faut comprendre que le traumatisé, sauf s'il a des signes de détresse, on le laisse en attendant les secours. Mmh. On appelle aussitôt les secours à partir du moment où on l'a examiné et qu'on a vu qu'il n'était pas en détresse vitale.
Je vous pose un cas concret. Si on le laisse sur place, si on bloque la voie d'accès, il y a quand même le risque de bloquer la circulation et donc l'arrivée des secours. C'est un peu le serpent qui se mord la queue. On fait comment ?
Oui, bah ça, c'est ce qu'on a un petit peu tout le temps. Voilà. Normalement, par exemple, il y a la voie sur l'autoroute,
la voie d'urgence.
Et puis sinon, honnêtement, c'est ce qu'on fait tout le temps et on accède. Mais c'est clair qu'en fait, il faut que par contre, là, les automobilistes respectent les secours. Et ça, c'est un autre problème.
Le civisme, c'est toujours essentiel quand on veut aussi sauver des vies.
Et juste par rapport à ce qui a été dit avant, même ce qui est très intéressant, on a fait des statistiques sur les interventions en avion, sur des arrêts cardiaques. Et est-ce que vous savez qu'en fait, les gens qui ont été le plus sauvé, les passagers qui ont fait des arrêts cardiaques, ce sont les hôtesses et les stewards, plus que les médecins qui étaient appelés. Parce que, encore une fois, c'est les gestes et les bons gestes qu'il faut savoir faire. Si vous avez fait ça au début de vos études de médecine et que vous ne l'avez plus fait pendant 30 ou 40 ans, voire moins, finalement, vous ne le sauvez pas. Et donc, c'est très intéressant de voir que le nombre de gens qui ont été le plus récupérés sur des arrêts cardiaques, ce n'est pas avec des médecins dans les avions. C'était finalement avec les hôtesses et les stewards.
Le béaba. Docteur Massassoum Diop, on va passer au cas pratique. Hein. Ce sera les questions de nos auditeurs juste après M dans ta radio.
Faut que je passe dans ta radio. Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. Je cherche un moyen. Depuis que l'orage est passé, je sentais bien que mon cœur n'était plus à même de dire des mots comme je t'aime. FM éphémère. Dans mon cœur, tu captes les moindres fréquences, malgré nos histoires, nos distances. Et pour que les ondes de cette chanson se glissent.
Priorité santé sur RFI, les premiers secours, que faire entre l'accident et l'arrivée des secouristes ou l'accueil aux urgences, intervenir efficacement en cas d'imprévu, prévenir, protéger, identifier. Nous sommes toujours en studio en compagnie du docteur Massamba Sassoum Diop, médecin urgentiste, président de SOS Médecins à Dakar, médecin urgentiste au SAMU de l'Essonne en région parisienne. Est-ce que par exemple, quand on appelle les secours en cas d'accident de la circulation, docteur, les questions aux premiers témoins sont toujours les mêmes? Vous êtes le médecin en ligne et vous allez interroger sur, on va dire, la scène de l'accident. Est-ce que vous allez toujours poser les mêmes questions?
Oui, tout à fait. On a besoin d'avoir une idée déjà de la vélocité, de la violence du choc. On a besoin de savoir le nombre de victimes, pour adapter les secours. Et on a besoin d'avoir une idée de l'état de chaque victime. Et donc, avant tout, comme encore une fois, sur la conscience, sur la respiration, ce sont ces éléments-là. Et au fur et à mesure, on creuse pour avoir une idée sur cette gravité.
Alors, des situations d'urgence fréquentes, comme le montrent les nombreux témoignages à ce sujet, les fausses routes. Une question avec Odette qui a laissé un message sur le répondeur de Priorité Santé.
Bonjour RFI, bonjour docteur. Je m'appelle Odette, j'habite à Bukavu, RD Congo. En fait, j'ai un bébé de 2 mois. Il y a de cela quelques semaines, il avait 1 mois je crois. Il avait fini de téter, je l'ai fait coucher. Quelques minutes après, par instant, je suis partie surveiller comment est-ce qu'il dormait. J'ai remarqué qu'il y avait du lait qui coulait par ses narines et par sa bouche. Je l'ai vite soulevé. Je l'ai amené dehors pour qu'il ait beaucoup plus d'air. J'ai essuyé le lait qui coulait et il a fini par pleurer, heureusement. Maintenant, mes questions sont les suivantes. Ma première question est celle de savoir jusqu'à quel âge ça peut encore se reproduire chez les bébés. Ma deuxième question est celle de savoir comment est-ce qu'on peut réagir dans ces cas-là. Ma troisième question, on m'avait dit qu'il faut toujours les faire coucher sur les côtés, attendre qu'ils fassent l'euro avant de les faire coucher. Je voudrais savoir s'il y a une autre méthode qu'on peut appliquer pour prévenir ce qui est arrivé. Merci beaucoup.
Alors, cas concret des réponses qu'ils sont tout autant. Docteur Massamba Sassoum Diop, ce bébé qui semble un petit peu s'étouffer dans son sommeil après la tétée, qu'est-ce que vous pouvez répondre à Odette ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est, ça rejoint la première et la dernière question qu'elle pose, c'est finalement, c'est un enfant qui, au minimum, régurgite. On peut avoir un enfant qui carrément vomit pour une raison ou une autre, mais là, on est probablement plutôt dans un cadre de régurgitation qui s'estompe au fur et à mesure, dans les, je dirais globalement, dans la première année de vie. D'accord ? Et là, par contre, il y a déjà la prise en charge de cette régurgitation avec le fait que cet enfant, on doit effectivement attendre jusqu'à 45 minutes avant de le coucher éventuellement, épaissir le lait. Donc, il y a un certain nombre de conseils à donner pour éviter cette régurgitation. Maintenant, on s'est aperçu, par contre, attention sur le fait, d'un point de vue général, en dehors de la régurgitation, un enfant, quand on l'est couché, par exemple, sur le ventre, on s'est aperçu que le nombre de morts subites a été multiplié par 75% par rapport à les coucher sur le dos. Donc un enfant aujourd'hui, un bébé, doit être couché sur le dos. Le seul cadre de la régurgitation est un cadre à part où on doit gérer cette régurgitation de différentes façons. Ensuite, pour ce qu'est-ce qu'il faut faire comme geste, c'est vraiment très simple. C'est-à-dire que si on voit que l'enfant s'étouffe, c'est un petit peu, ça rappelle un peu, mais différemment par rapport à l'adulte, on va le prendre, comme c'est un bébé, dans la main gauche par exemple. On va tenir la bouche avec deux doigts, avec l'index et le majeur, on le penche à peu près de 30 degrés. On l'incline un petit peu la tête en bas, on a les jambes vers nous, la tête vers le genou, vers le bas. Et à ce moment-là, en l'ayant un peu incliné, on va taper 5 fois sur le dos. Vous voyez, on appuie, on ne va pas lui écraser totalement, mais il faut quand même appuyer pour que l'air sorte avec le fait qu'on comprime le thorax et que ça exprime l'air vers l'extérieur. Donc on va taper, hein, boum, boum, on va taper à plat, entre les deux omoplates, 5 fois. Si ça ne suffit pas, on va le retourner et on va le prendre dans l'autre main, dans la main droite. On va tenir la tête pour pas qu'elle bascule en arrière trop, avec les deux doigts, les mêmes deux doigts index et, et majeur. Et on va toujours incliner à peu près à 30 degrés vers le bas, toujours les jambes vers nous. Et cette fois-ci, c'est au niveau, vous savez, le bas du sternum, le début, si j'ose dire, de l'abdomen, du ventre, hein, au-dessus du nombril. Et cette fois-ci, avec la paume de la main, on va appuyer et on va écraser, pareil, pour faire remonter, pour faire sortir l'air. Donc on fait encore ça 5 fois. Si jamais ça ne marche pas, on refait encore la première manœuvre jusqu'à ce qu'on y arrive. Donc en fait, en général, ça suffit, surtout chez un nourrisson. En fait, ça suffit pour exprimer vers l'extérieur l'air et puis du coup le liquide, par exemple, qui a bloqué.
Alors on va retrouver un témoignage tout de suite. C'est pour ça, on part à Garoua au Cameroun. On retrouve en ligne Christophe. Christophe, bonjour.
Bonjour, Caroline. Bonjour, docteur.
Alors Christophe, vous, l'accident auquel vous avez assisté, ça remonte à 3 mois maintenant. Expliquez-nous ce qui s'est passé.
Alors, j'ai assisté à un accident sur la voie publique, à un plein carrefour le matin, où un monsieur avec sa moto qui ramenait ses enfants à l'école a été percuté par un véhicule. Et donc, on a pris le monsieur qui était du coup inconscient, on l'a mis à côté de la route, une bonne place. Et déjà là, il y avait des premiers problèmes parce que certains disaient qu'il fallait tourner le corps, son corps du côté gauche, d'autres du côté droit. Donc ça paniquait. Et puis bon, comme il avait perdu connaissance, il ne savait pas. Et bon, quand en discutant, il a repris connaissance et il nous a demandé de l'eau. Il avait fait soif. Et nous l'avons donné. Et en moins de 3 ou 5 minutes, il a commencé à convulser et il a perdu la vie.
Il est décédé, cet homme blessé est décédé. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Qu'est-ce qui s'est passé justement entre le choc et l'arrivée des secours? Qu'est-ce que vous ont dit les secours à leur arrivée?
Alors les secours ont dit déjà il fallait pas donner de l'eau à une personne accidentée, quel qu'en soit le cas, même s'il demande n'importe comment, il ne faut pas donner de l'eau.
D'accord.
Et il ne fallait pas secourir aussi, donc quoi, parce que certains disaient qu'il fallait basculer le corps du côté gauche et du côté droit pour essayer de les stabiliser.
Mmh. J'ai une question à vous poser. Quand il y a eu cet accident après, est-ce que chacun donnait son avis? Est-ce que c'était, on va dire, un petit peu le bazar pour savoir comment prendre la direction des opérations ou les choses étaient bien claires?
Non, c'était franchement le bazar, parce que ceux qui ont secouru eux-mêmes ne savaient pas exactement qu'est-ce qu'il fallait faire.
Il y avait de la panique, on va dire, Christophe.
Oui, chacun donnait son avis, bien que c'était contradictoire.
Donc c'est un épisode tragique quand même, Christophe. C'est vrai qu'on vous a dit que c'était une erreur de donner de l'eau. Moi, j'ai une question à vous aujourd'hui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu coupable de ce qui s'est passé, d'avoir mal agi, ou pour vous, c'est un accident, vous n'y pouviez rien? Qu'est-ce que vous en pensez?
Bon, ça m'a pris au départ. Je me disais que bon, j'étais même sûr que j'ai déjà contribué au décès d'une personne, mais au fil du temps, je me suis dit que peut-être c'est la méconnaissance des premiers soins qui ont contribué à cela. Donc, ce n'est pas forcément de ma faute ou bien de nos fautes en l'état, parce qu'on avait l'idée de bien faire, même si ça a peut-être échoué.
La volonté d'agir, de toute façon, on l'a bien compris, l'accident, ce n'était absolument pas de votre cause. Vous avez essayé de faire votre mieux. En plus, il y avait trop de monde, donc c'était difficile de faire les bons choix. Docteur Massamba Sassoum Diop, peut-être avant de parler du cas de ce blessé qui présentait a priori des lésions très graves puisqu'il est décédé très rapidement, une première chose pour Christophe, parce que c'est important aussi quand on a assisté à quelque chose de tragique, c'est absolument pas de sa faute, il a essayé de faire de son mieux.
Très honnêtement, quand je vois cette histoire, je pense que ce patient ne pouvait probablement pas, même avec des secours, si c'est allé aussi vite, sans autre signe que ce qu'il décrit, je pense que de toute façon, il serait probablement mort, décédé. Donc en fait, il a vraiment... C'est pas parce qu'il a fait une erreur, c'est pas parce qu'il a donné de l'eau qu'il est décédé, même s'il faut pas en donner, c'est pas ça qui a tué le patient. Donc de ce côté-là, il peut être vraiment rassuré, c'est pas ces gestes qu'il a...
En tout cas, il y a un béaba, c'est important aussi ce que disait Christophe, on le comprend à travers ce témoignage, c'est qu'il aurait bien aimé savoir quoi faire, déjà déplacer ou pas cette personne. On imagine accident de la route, faut quand même le mettre à l'abri. Mais ensuite, quand il y a des demandes précises, on va dire, c'est pas entre guillemets, pour une fois, peut-être qu'en cas de grave accident, c'est pas le patient qui décide.
Oui, et c'est ça aussi l'intérêt, c'est que quand on a une formation, dans un cas comme ça, on prévient tous les gens qui sont autour, je suis secouriste ou je suis infirmier, je suis médecin, sous-entendu, je sais ce que je fais.
On prend la main.
On prend la main et ça permet de faire redescendre la pression. D'ailleurs, même ça soulage les autres et on commence à agir. Et typiquement là, par exemple, en termes d'action, alors effectivement, l'eau, on ne fait pas boire pour diverses raisons et on s'en doute déjà parce qu'on ne va pas remplir un estomac qui risque de revomir aussitôt. Donc, on va éviter. L'autre chose, pour la position latérale de sécurité, alors déjà, droite ou gauche, l'essentiel, c'est de mettre en PLS quand on décide de le faire. Là, le problème, c'est la notion du traumatisme, encore une fois. Tant qu'il ventile, on le laisse sur le dos et on l'immobilise, on bloque la tête. Il y a quelqu'un qui se met à la
tête. Tant qu'il respire, personne respire naturellement.
Tant qu'il respire, conscient ou inconscient, on immobilise le rachis, on le garde dans l'axe et on attend les secours. Après les avoir, du coup...
On ne bouge pas le dos. Voilà.
Et on les a appelés, on laisse la rectitude du dos. Alors que c'est différent si la cause du coma n'a rien à voir avec cela, par exemple, un coma d'origine neurologique avec un accident vasculaire cérébral, un coma lié à une hypoglycémie, quelque chose comme ça. Là, on va mettre d'emblée en PLS. Mais là, on a une notion de traumatisme. Donc, on doit faire très attention. Mais si, par contre, il se met à étouffer, là, il risque de mourir à la seconde. Donc là, on va le mettre en sécurité, en position latérale de sécurité, en faisant attention à l'axe, encore une fois, et que la tête ne se met pas à tomber sur le côté. D'autre part, là, on voit bien qu'il a convulsé. Donc, en fait, il peut convulser pour diverses raisons, soit parce qu'il n'y a plus de sang qui arrive au cerveau, soit parce qu'il y a un traumatisme crânien majeur. Donc, en fait, la convulsion, c'est quelque chose d'à part. Ça veut dire juste une gravité. Et après, donc, comme je vous l'ai dit, il n'aurait pas pu faire grand-chose d'autre que ce qui a été fait, mis à part qu'il n'y avait aucune raison de donner de l'eau.
Voilà, Christophe, pour cette réponse. On va voir que les fausses routes, c'est quelque chose, on le sait, chacun d'entre nous a déjà vu ça, assisté à ça. Et il y a beaucoup, de témoignages à ce sujet.
RFI à Kinshasa, 105 FM.
Et là, c'est donc de RDC hein, que Kim garde en mémoire un vrai moment de panique. On l'écoute.
Une fois, je crois, ça fait 13 ans passé, j'étais avec mon papa. Et dans l'entretemps, il y avait mon neveu et mon petit frère qui jouaient. En juin, ils ont retrouvé le bouchon, donc le couvercle de bouteille en verre. Donc, il avait dans sa bouche le bouchon en question et il a avalé le bouchon. Malheureusement, ça s'est arrêté dans sa gorge. Et dans un premier temps, j'essaie de paniquer. Quand j'ai prévenu mon papa, il est venu, il a pris son doigt, il a introduit le doigt dans la gorge de mon neveu et il a ressorti le bouchon. En tout cas, il y avait un peu de la panique, mais juste après ça, bon, voilà, c'était ressorti. Mais c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup parce que j'aimerais aussi savoir par rapport aux brûlures. En tant que femme, lorsqu'on est dans la cuisine, nous arrive ce genre des accidents, des incidents. Comment réagir par rapport à ça quand on a du coup, on se brûle sûrement ou peut-être au travers de huiles, quand les huiles sont au feu, quand on fait de cuisson, par exemple, on grille le poulet, le poisson, de fois l'huile saute sur nous et la bouillie aussi, la bouillie de fois nous fait brûler. Comment réagir par rapport à tout ça?
Alors, il y a deux questions bien précises hein, dans ce message de Kim. On va commencer peut-être, docteur Massamba Sassoum Diop, par cette fausse route. Le papa qui était là n'y va pas par quatre chemins. Hein, il choisit la pince, les doigts, et il va chercher l'objet qui obstrue la respiration.
Très intéressant comme cas, parce qu'effectivement, c'est d'une part quelque chose d'extrêmement fréquent, et surtout les âges extrêmes. C'est-à-dire qu'en fait, c'est les petits et les personnes très âgées au moment du repas. Il est petit, c'est avec n'importe quel objet. Alors, heureusement que c'était un bouchon, ça veut dire que c'est quelque chose d'un gros diamètre.
C'était resté
en
position haute.
Voilà, et donc il a dû le voir, et c'est pour ça qu'il a pu enlever le corps étranger. Donc, il l'a enlevé, on ne va rien dire. Mais l'important, dans un cas comme ça, et donc chez un adulte, hein, chez d'un enfant assez grand, on a vu pour le nourrisson, un enfant jusqu'à l'adulte, on va, en fait, la technique, c'est... On le penche un petit peu en avant et on tape. Donc, vous voyez, imaginez, il est debout. On penche un petit peu le thorax en avant et on va taper entre les deux omoplates assez fortement pour exprimer l'air encore une fois. Ça ne suffit pas. Après cinq fois, donc là, on parle d'un adulte, hein, on va se mettre derrière. C'est la manœuvre que les gens faisaient d'abord en premier, maintenant qui est faite en second. On met la main, entre le nombril et le sternum. Et avec l'impact du pouce et l'autre main dessus, on va remonter très, très fort. On essaye de remonter le diaphragme pour faire sortir de l'air encore une fois. Et on va essayer de le faire cinq fois.
La manœuvre d'Heimlich,
De Heimlich. Donc, cinq fois dans le dos, ça ne suffit pas. Cinq fois comme ça, manœuvre de Heimlich. Et donc, pour sortir le corps étranger.
Alors, il y a une autre question sur les brûlures, en particulier l'huile de friture. Ça me rappelle un point précis. Est-ce qu'en fonction du produit qui a brûlé, hein, c'est très concret, on est à la cuisine, de l'eau, de l'huile ou même une flamme, est-ce qu'en fonction de la brûlure, on va agir différemment ou c'est toujours la même réponse?
Alors, comprenez bien une chose. On ne parle pas de l'huile qui est en train de flamber sur le feu.
Non.
Celle-là, on ne lui met surtout pas de...
Surtout pas d'eau. On parle d'une brûlure sur la peau.
La peau, voilà. C'est très important parce que quelquefois, les gens confondent. Toute brûlure, qu'elle soit chimique, qu'elle soit calorique, qu'elle soit à l'huile, qu'elle soit à l'eau bouillante, qu'elle soit avec... Une autre fois, j'ai eu du riz bouillant pour un pauvre enfant dans un rice cooker. Quoi qu'il arrive... Brûlure égale eau.
Voilà.
Et là, c'est obsessionnel. Et c'est le plus tôt possible. Ça a, premièrement, un effet
au froid.
Ou en fait, l'eau de température ambiante. En général, on dit, parce qu'en Afrique, elle va sortir à 22 degrés. C'est l'eau du robinet.
D'accord.
C'est idéal. C'est sûr, quand vous êtes au bord de la mer, vous le jetez dans la mer. Si jamais il y avait une piscine pas loin, vous le jetez dans la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis un peu... Mais l'important, c'est le plus tôt possible de l'eau à température ambiante. En comprenant, il faut bien comprendre, le premier effet... Ça stoppe l'évolution de la brûlure. Ça stoppe l'aggravation. Le deuxième effet, c'est que ça calme complètement la douleur. Donc, c'est au minimum 5 minutes et ça va jusqu'à 10 minutes. Et ce qui est important, même si la brûlure est chimique, c'est exactement la même chose. Si c'est un acide, ça va être plutôt 15 minutes. Et si c'est une base, donc la soude caustique qui est très délétère, ça va être plutôt 30 minutes de rinçage. Donc, quoi qu'il arrive, brûlure, quelle qu'elle soit, encore une fois, c'est de l'eau, de l'eau, de l'eau. Pas de pâte de dentifrice, pas de pommes de terre coupées, on nous a mis
poil
de lapin coupé, enfin bon, on a vu de tout.
Donc, on évite, voilà. On va à l'essentiel, on va à l'eau.
Gras,
alors, docteur, quand on parle d'une urgence parmi les urgences, on ne l'a pas encore évoqué directement, l'accident cardiaque, bien évidemment, état d'inconscience, une respiration qui se passe plutôt mal. Déjà, comment est-ce qu'on va reconnaître la nature cardiaque de la scène qu'on a en face de soi? Quelqu'un qui va chanceler, qui va perdre connaissance ou qui va faire un geste un petit peu dramatique de douleur? Comment est-ce qu'on sait que c'est le cœur qui est en jeu?
Voilà, typiquement, ce sont souvent ces patients-là, ce qu'on appelle la mort subite. La personne, elle est droite, elle marche et tout. Et d'un seul coup, elle va poser, si j'ose dire, sa main au thorax. Et puis, elle va s'écrouler. Ces personnes-là, alors quelquefois, ils le font un peu plus progressivement, mais vraiment, c'est plutôt ce type de cas. Et dans ce cas-là, vous avez 15 secondes. En 15 secondes, vous avez la personne qui est au sol. Vous regardez, est-ce qu'elle est consciente? Le premier élément de la vie, c'est la conscience. Deuxième, est-ce qu'elle respire? Donc, elle est allongée, bien sûr. Ça veut dire qu'elle est allongée. Elle vous l'a stimulée. Elle répond, c'est réglé. La personne ne répond pas, vous mettez la main sur, et vous regardez en ce qu'on appelle un jour frisant, c'est-à-dire sur le côté, vous mettez, et vous essayez de regarder si le thorax et le ventre se soulèvent ou pas. Vous comptez jusqu'à 10. Si le thorax ou l'abdomen ne se soulève pas, c'est 1, inconscient, 2, ne respire pas, il est mort ou il va mourir. Donc immédiatement, appel des secours, n'oubliez pas, c'est une chaîne. Comme l'a dit...
Un appel des secours.
À ce moment-là, c'est appel des secours parce que sinon vous êtes seul. Et ils arriveront dans... Je ne sais pas, si vous ne les appelez pas, ils n'arriveront jamais. Donc, un appel des secours. Deux, je secours le patient en me mettant immédiatement sur le thorax. C'est simple, sur le thorax, au milieu, sur le sternum, entre les deux seins. Et je commence à appuyer d'environ 5 cm de profondeur.
Ça veut dire qu'il faut y mettre une sacrée énergie quand même.
Il faut, on appuie, voilà, on sent qu'on descend, on met les bras vraiment en rectitude, à la verticale, on met les deux mains l'une sur l'autre et on appuie de 5 cm en profondeur, 5 à 6, à une fréquence de 100 à 120 par minute. C'est vraiment là.
Staying Alive, là. Je me souviens, on l'a déjà dit, c'est là. Les Bee Gees, c'est voilà. Staying Alive.
Exactement.
Donc, on le chante dans sa tête et ça tourne.
C'est cette fréquence-là, les secours ont été appelés. Et à ce moment-là, on continue. Alors, l'important, surtout si ça vient de se passer devant nous, on peut même ne pas ventiler dans l'immédiat. L'important, c'est l'obsession, c'est le massage cardiaque.
On a bien compris.
Et c'est évident que plus on est secouriste, mieux on sait faire, plus on s'occupera éventuellement du bouche à bouche. Mais on ne sait pas. L'essentiel, c'est d'avoir reconnu, appelé et commencé le massage cardiaque.
On a parlé de l'accident cardiaque. Maintenant, des signes évocateurs d'un AVC. Là aussi, une autre urgence absolue. Accident vasculaire cérébral, comment on reconnaît?
Alors, c'est ce qu'on appelle le déficit. C'est-à-dire que vous allez avoir la face qui va... La personne va commencer à avoir soit un trouble, par exemple, de l'élocution. Il va avoir du mal à parler. Il va avoir la face qui va se déformer un petit peu, qui va se dévier d'un côté. Et il va éventuellement avoir le bras ou la jambe ou les deux qui ne vont plus avoir de force. Donc, c'est ce côté latéralisé du déficit plus le trouble de la parole. C'est immédiatement appeler les secours. Si ça entraîne jusqu'au coma, c'est là où, voilà, coma d'origine neurologique, on va mettre en position latérale de sécurité parce que la personne risque de s'étouffer. Typiquement, en post-convulsion aussi, on va mettre la personne en position latérale de sécurité. Au passage, d'ailleurs, quand quelqu'un convulse, surtout n'essayez pas de l'attraper, n'essayez pas de le bloquer. Laissez-le, entre guillemets, convulser. Vous avez appelé les secours et une fois que la crise s'arrête, vous le mettez en position latérale parce que là, il risque d'étouffer.
C'est pareil pour quelqu'un qui présente une crise d'épilepsie.
Voilà, c'est ça dont je parlais, c'est la crise d'épilepsie, la convulsion. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que quand vous avez quelqu'un qui devant vous fait un malaise progressif, ça va être extrêmement fréquent. J'en ai encore eu en venant là, dans l'avion, quelqu'un qui s'est progressivement écroulé, qui a vu un voile noir passer devant lui, des étoiles et tout, et boum, qui se met à tomber. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus progressif. En fait, c'est quelqu'un qui respire, qui va vers l'inconscience, voire qui est inconscient, Et ça, c'est très fréquent, vous allez la voir, pour diverses raisons. Vous pouvez avoir la vue du sang, ça peut être par des douleurs, ça peut être...
Tomber dans les vapes, simplement.
S'évanouir. Ça s'appelle un malaise vagal. On allonge la personne et on relève aussitôt les jambes et vous le laissez comme ça. Il n'y a que s'il vomit que vous êtes obligé de le mettre en position latérale. Mais sinon, vous allez voir qu'en 5 minutes, il va récupérer.
Alors, un message Facebook d'une auditrice du Sénégal, Yacine, qui explique qu'il y a un an, elle a eu une brûlure grave, sa robe était en flammes. Elle a été prise en charge en réanimation, elle a passé beaucoup de temps à l'hôpital et elle en a profité pour observer, elle a côtoyé différents cas. Elle nous explique aussi qu'elle a déjà secouru sa mère jusqu'à l'arrivée des secours alors qu'elle était victime d'une embolie. Elle a aussi conduit des enfants qui s'étaient battus aux urgences après avoir bloqué le saignement. Elle a raté sa vocation d'urgentiste. En tout cas, elle fait preuve de sang-froid. Mais ce qu'on entend aussi avec ce témoignage, et ça pourrait nous amener à cette fameuse question sur les saignements, elle a bloqué le saignement. Moi, ça m'appelle une question. C'est quoi la différence entre une compression, docteur, une compression et un garrot?
Alors, c'est très important aussi, ça. Déjà, on se doute, on ne peut faire de garrot que sur un membre. On ne peut pas le faire si on ne va pas garrotter le cou parce qu'on a une plaie au niveau du cuir chevelu. Donc, forcément, les garrots, c'est que sur les membres. Dans un premier temps, où que soit l'hémorragie, où qu'elle soit, on va comprimer en direct dessus. Alors, c'est vrai qu'on peut comprendre que dans se protéger, on se dit, je ne sais pas qui c'est, son sang et tout, on va mettre un tissu entre. Mais l'important, c'est d'appuyer directement sur la zone qui saigne jusqu'à arrêter le saignement. Si ça marche, c'est parfait. Si c'est sur le corps, de toute façon, il n'y a pas le choix, il n'y a que ça. Si c'est un membre, à ce moment-là, vers la racine du membre, c'est là qu'on va faire un garrot qu'on appelle souvent tourniquet. C'est-à-dire que vous prenez, j'en sais rien, une ceinture, vous prenez un tissu, vous prenez un foulard, vous prenez... Et vous faites deux nœuds, comme les nœuds de lacet. Donc les nœuds simples. Et entre les deux nœuds, vous prenez un petit bâton ou un stylo et vous tournez jusqu'à ce que ça arrête le saignement.
Alors, on a un message. Là encore, il est question d'un corps étranger. C'est Axel de Franceville qui pose cette question sur la page Facebook de l'émission. Sa fillette de 4 ans a avalé une fève de cacao. Alors, elle n'a pas de fausse route, mais l'inquiétude forcément d'une maman. Il faut dire qu'Axel explique que lorsqu'elle était petite, pour l'effrayer, les adultes lui racontaient, on va dire, des histoires et lui disaient que la fève risquait de germer et de pousser dans le ventre. Peut-être pour avoir après aussi un pot de cacao, pourquoi pas. Bon, plus sérieusement, Axel demande s'il faut aller voir un pédiatre, un chirurgien. Qu'est-ce que vous pouvez lui répondre?
Alors, l'important, au moment où on a quelque chose comme ça, c'est est-ce que l'enfant il tousse ou pas? Si tousse, ça veut dire qu'on craint que ce soit passé dans les poumons, mais qu'il respire quand même. Ça veut dire que c'est peut-être passé dans une des bronches, la bronche droite en général. Et à ce moment-là, on peut être amené à devoir faire une fibroscopie, parce que là, par contre, on a vu des cacahuètes qui ont germé dans le poumon.
Donc, ça paraît incroyable.
Ouais. Donc ça, par contre, attention, on doit aller, surtout si l'enfant après se met à faire de l'asthme, à tousser de façon récurrente. Si ça passe dans le bon tuyau, c'est-à-dire au niveau de l'œsophage, eh ben, en fait, ça va dans l'intestin. Et là, comme c'est une fève de cacao, de toute façon, elle va passer. Mais là où c'est important, c'est si c'est une pièce, et une grosse pièce, par exemple. On est amené à faire 24 heures après une radio pour vérifier que ça ait passé, que ça soit passé de l'estomac dans l'intestin, parce que ça peut se bloquer au bout de l'estomac. Et ça, par contre, ça pose problème. Et sinon, on vérifie, si j'ose dire, on récupère à la douane la pièce une fois que
on a bien compris, vérifie dans les selles de l'enfant pour vérifier que la pièce est bien passée dans tout le transit.
Exactement. Et là, ce qui est dangereux, par contre, ce sont les toutes petites piles plates. Les petites piles plates. Les piles boutons, elles ont de l'acide. Et là, normalement, on doit aller les chercher.
J'ai une question, je vous lance un défi en 20 secondes. Oui. Contexte rural tropical, envenimation, piqûre de serpent, qu'est-ce qu'on fait?
Alors c'est très simple, alors là, on immobilise la personne, on immobilise le membre, il n'y a aucun produit, je ne sais pas quoi, machin, ou aspivenin, et par contre, c'est le sérum anti-vénéneux. Donc on immobilise la personne, on fait le sérum anti-vénéneux.
Centre de santé.
Et on l'amène, sinon on l'amène vers le centre. Voilà la seule. Mais surtout, tout le reste, on sait que ça ne marche pas. Mais heureusement, ce n'est que dans 2 à 5% des cas que ces venins sont mortels, par exemple en Afrique.
Donc, il faut intervenir, aller au centre de santé, comme le plus souvent. D'ailleurs, un grand merci à vous, docteur Massamba Sassoum Diop, pour votre disponibilité et tous ces cas très, très concrets, toutes ces réponses à nos auditeurs. Et à très bientôt dans Priorité Santé.
À bientôt. Merci beaucoup et merci aux auditeurs.
C'est le moment de parler sport et santé avec vous, docteur Jean-Marc Sen, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes médecin du sport et aujourd'hui, docteur Sen, nous allons parler de la pubalgie. Ce diagnostic, il est souvent évoqué lorsqu'une personne sportive se plaint de douleurs dans la région pubienne. Bien sûr, on part du commencement. C'est quoi la pubalgie ?
Eh bien, la pubalgie, c'est une douleur, comme vous l'avez dit, dans la région pubienne. Et ça porte un autre nom. On dit quelquefois que c'est une maladie pubienne. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette région, il y a une articulation qui s'appelle la symphyse pubienne. C'est une articulation du bassin qui se trouve inflammée. Et comme cette articulation est inflammée, dessus, il vient s'insérer un certain nombre de muscles. Les muscles abdominaux en haut qui s'insèrent, les muscles abdominaux en bas. Résultat, on peut avoir des douleurs de l'articulation, mais également des muscles abdominaux ou des muscles des adducteurs qui sont associés à cela. Autre chose que l'on peut observer, c'est une faiblesse de la paroi abdominale, c'est-à-dire qu'on se rend compte que ces abdominaux font moins leur fonction, et du coup on a une faiblesse de la paroi abdominale, ce qui entraîne également des douleurs. Et donc, généralement, toutes ces douleurs peuvent apparaître dans la pubalgie.
Maintenant, du côté des explications, qu'est-ce que vous pouvez précisément nous dire pour comprendre d'où viennent ces douleurs ?
Évidemment, il y a beaucoup de discussions. On ne sait pas trop d'où viennent les douleurs. Mais en tout cas, ce qui semble être relativement bien accepté, c'est qu'il existe un déséquilibre musculaire entre les muscles de la sangle abdominale et les muscles adducteurs dont on parlait juste à l'instant. Et en fait, ce pubis, cette articulation, est un véritable carrefour, finalement, où viennent s'insérer ces muscles. Et l'autre mécanisme qui explique ce déséquilibre, c'est finalement une instabilité du bassin lors de la pratique sportive. C'est-à-dire qu'on va être sur une jambe, par exemple, au football, on va entraîner une frappe, et il y aura le bassin qui va être instable, entraînant des forces de tension extrêmement importantes au niveau de cette symphyse pubienne. Alors, évidemment, on va retrouver chez ces personnes finalement des déséquilibres anatomiques et biomécaniques qui vont favoriser tout cela, comme le bassin qui part en avant, on parle d'antéversion, comme une asymétrie de la taille des membres inférieurs, comme le bas du dos qui est extrêmement cambré, on parle de lordose lombaire, et puis comme une musculature extrêmement forte et raccourcie des adducteurs, avec un développement des abdominaux qui sont pas suffisants. Et donc c'est cette prédisposition anatomique qui va favoriser la pubalgie. Et il faut savoir aussi, de manière générale, qu'on retrouve cette pubalgie plutôt chez les hommes qui pratiquent une activité physique extrêmement intensive.
Alors, du côté du diagnostic en cas de douleur dans cette région du bas-ventre, comment savoir si c'est, oui ou non, une pubalgie ?
Évidemment, comme on vient de le dire, Caroline, le tableau clinique, il est plutôt complexe. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va avoir des douleurs dans cette région inguinale, au niveau du pubis, des douleurs qui vont irradier au niveau des adducteurs, qui vont remonter au niveau de la paroi abdominale. Donc ça, c'est des symptômes qui vont exister. Il va falloir que le médecin, bien évidemment, examine, prenne en compte, bien sûr, ces symptômes, examine pour être sûr que c'est bien cette articulation et les tendons qui s'y insèrent qui pose un problème, et également le canal inguinal, c'est-à-dire c'est une zone où passent des vaisseaux et des nerfs qui sont à proximité de cette région. Et puis, en fonction justement de son examen clinique et des structures anatomiques qu'il va vouloir analyser, eh bien, il va demander des examens complémentaires. Donc, il pourra demander une radiographie, par exemple, du bassin de face, c'est très bien pour regarder justement cette fameuse symphyse pubienne. Il pourra demander une IRM du bassin, on verra bien à la fois la symphyse pubienne, mais également les muscles et les tendons qui s'y accrochent, ou encore, par exemple, une échographie.
Alors maintenant que le diagnostic est posé, côté prise en charge, comment guérir une pubalgie ?
Alors ce qui est essentiel, c'est de mettre en place une rééducation. Ça sera absolument nécessaire pendant 2 à 6 mois. C'est très très long, il faudra que la rééducation soit progressive. Et le but, ça va être justement d'étirer les muscles pour éviter les tensions, mais également de renforcer les muscles qui sont insuffisants comme ceux de la paroi abdominale. Donc la kinésithérapie sera vraiment nécessaire. L'ostéopathie sera aussi utile. Pourquoi pas? Et puis, il faudra retravailler le geste sportif pour essayer de stabiliser le bassin lors de cette pratique sportive. Alors, des médicaments, évidemment, pourront être proposés, comme des anti-inflammatoires, des décontracturants musculaires, la mésothérapie, c'est le fait de piquer et de mettre des médicaments à proximité, par exemple, de la symphyse pubienne ou des muscles, ou voire même, quelquefois, des infiltrations de corticoïdes pourront être proposées. C'est seulement en cas d'échec qu'on pourra proposer une intervention chirurgicale, et le but, ça sera évidemment de retendre certains muscles ou au contraire de détendre les muscles, par exemple des adducteurs. Alors voilà, j'espère qu'avec tous ces conseils, nos auditeurs auront un pubis en béton.
En béton et non douloureux. Merci beaucoup. Merci docteur Jean-Marc Sen. Je rappelle que vous êtes médecin du sport. On se dit à très bientôt dans Priorité Santé. Et merci à toute l'équipe avec nous aujourd'hui. C'est tout ça, Machéophile et la scène, Didier Bleu, Victor Hull. Demain, on va parler de l'électroencéphalogramme, cet examen pour connaître le cerveau, en mesurer son activité électrique. On se dit à demain. D'ici là, portez-vous bien.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance, qui a le bon profil pour vous accompagner dans tous vos challenges personnels et professionnels.